Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans ce mag où aujourd'hui on vous proposera pour ce dimanche la nouvelle visite mensuelle de La Mounière, la maison des mémoires de la ville de Sept-Fonds, autour de la nouvelle mise en valeur du mémorial du camp de Jude. Une visite guidée pour ce dimanche pour découvrir cette nouvelle exposition permanente, son dispositif numérique immersif et ses reproductions pour plonger dans l'histoire de ce lieu de mémoire. C'est ce dimanche de 15h30 à 17h et on vous détaillera tout avec la directrice de La Mounière, la maison des mémoires de la ville de Sept-Fonds. Ce sera après, comme tous les mardis, la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques. On retrouve Victor Le Guinec depuis Quélus.
Bonjour et bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Aujourd'hui, et parce qu'on vient de finir un mois consacré à la musique, on cause évangile et passion, avec une œuvre magistrale de Bach, La Passion selon saint Matthieu. Jean-Sébastien Bach, né en 1685 à Eisenach, en Saxe, membre le plus éminent d'une des familles des musiciens les plus prolifiques de l'histoire, multi-instrumentiste, luthier réputé et compositeur de concertos, de suites pour instruments seuls, de cantates, de l'art de la fugue et du clavier bien tempéré. Il fera carrière principalement en Allemagne centrale. Père de 20 enfants, dont 4 compositeurs, 7 avec une première femme et 13 avec la seconde, la moitié mourra en bas âge, père aussi d'une œuvre souvent considérée comme l'aboutissement et le couronnement de la musique baroque. Dans cet oratorio, entendez un opéra religieux sans mise en scène, il y relate et commente la passion du Christ d'après l'évangile de Matthieu. Ça constitue, avec la passion selon saint Jean, également de Bach, l'apogée d'une très ancienne tradition remontant au Moyen-Âge, consistant à théâtraliser et chanter les événements menant Jésus à la croix pendant la Semaine Sainte. La passion est à la mode au XVIIIe, Telemann et Cunao s'y sont frottés, mais Bach nous propose l'une des plus riches et des plus grandioses. Et il articule admirablement son œuvre. Il alterne plusieurs types de chants, les récitatifs, mi-parlés, mi-chantés, proches du texte biblique où sont narrés les événements mis en œuvre par les protagonistes, ça raconte l'histoire. Dans les arias, interprétées par les solistes, la narration s'arrête, mettant tout en pause pour exprimer un sentiment, un commentaire, une réaction. L'arioso, entre les deux, résume tout ça. Puis viennent les chorales, les prières que tous les fidèles connaissent et peuvent chanter, la base de la liturgie luthérienne. Issues de mélodies grégoriennes transformées, de chansons populaires adaptées ou de compositions originales, notamment de Luther. Des mélodies simples, harmonisées à quatre voix où tout le monde doit pouvoir chanter. Chorales dans lesquelles le chœur, accompagné par l'orchestre ou l'orgue, fait participer le public de plusieurs façons, en tant que disciple, soldat, foule, pêcheur ou autre croyant, bref, le peuple. Il y a 3 couches littéraires pour conter cette histoire. D'abord le librettiste qui scénarise tout ça, ici c'est Picander, auteur de poésie, de drame et de textes érotiques. Puis ce récit est confié à un narrateur, l'évangéliste, qui donne aussi la parole au protagoniste et fait avancer l'histoire. Et enfin les chorales, choisies par Bach. Le tout s'assemble pour narrer l'affaire. C'est une composition monumentale avec énormément de transitions musicales. L'exercice est colossal au vu du niveau des musiciens. Toute la famille participe. Enfants, cousins, oncles, amis, tous musiciens pour soutenir l'orchestre amateur des élèves de son école. Sa femme et sa fille copient les partitions des différents pupitres. Le 15 avril 1729, vendredi saint à l'église Saint-Thomas de Leipzig. Parfaite pour sa disposition, divisée en 2 parties, un orgue de chaque côté, 2 orchestres de 17 musiciens pour une stéréophonie naturelle, ainsi que 3 chœurs dont un d'enfant, une trentaine de chanteurs au total. Programme de la journée. Sonnerie des cloches, cantique, passion première partie, chorale et sermon, puis passion deuxième partie, psalmodie et prière. 5 chœurs dans l'église. Et la musique commence. C'est trop théâtral pour les fidèles, ça les dérange dans leur confort, on ne demande pas au compositeur d'avoir du génie. Une dame se lève, Dieu nous garde, c'est comme si nous étions à l'opéra. Mais la musique continue sur l'ouverture, un prologue qui commence par la fin et raconte le chemin de croix. 2 chœurs, la foule en mi mineur pour représenter la terre, qui s'interpelle et se répond, un chœur qui ne comprend pas ce qui se passe et l'autre qui lui explique afin que tous sachent le drame qui arrive. Et par-dessus, tout en haut, surgit un troisième chœur en sol majeur, le ciel qui s'exprime, qui survole le tout avec des valeurs longues, hors du temps, nous invitant à reprendre au début, une ouverture à la fois humaine et céleste, solennelle et géniale.
Thank you.
Dans l'œuvre, Jésus est chanté avec une voix de basse, une partie grave, comme un soutien à toute l'harmonie, comme un soutien à la création. Jésus, seul, pour se distinguer des autres, est accompagné par un ensemble de cordes, comme une mandorle, une auréole exceptée pour les dernières paroles sur la croix, où l'absence de cet accompagnement symbolisant la divinité nous révèle l'humanité du Christ dans la souffrance et la solitude. Toujours soucieux de rendre sa musique plus expressive, Bach, dans l'aria « So is mein Jesus nun gefangen » nous fait entendre deux âmes en peine, soprano, alto, chantant leur tristesse dans un contrepoint magnifique accompagné par un orchestre sans basse. Jésus a été arrêté. Puis survient tout d'un coup dans l'autre tribune le chœur avec beaucoup d'intensité. Le peuple hurle « Lâchez-le, arrêtez !» Ça ne suffit pas, alors un double chœur éclate avec une extrême violence. L'ensemble de la création se déchaîne contre l'arrestation puis l'orchestre explose. La nature gronde son mécontentement dans une atmosphère musicale proche de l'orage de la symphonie pastorale de Beethoven. Sur ce, je vous propose de monter les sons et moi je vous laisse. La Passion selon saint Matthieu, un CD à retrouver dans les bacs de votre réseau des médiathèques favoris. Bonne écoute et à bientôt.
C'est du Jean-Sébastien Bach sur cette antenne de CFM Radio dans ce mag. C'est grâce à la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques de Victor Leguenec que vous en avez un petit extrait. Ces chroniques, vous pourrez les réentendre sur le site de CFM Radio, cfmradio.fr. Et juste après un peu de playlist CFM, on se retrouve pour parler de la prochaine visite de La Mounière, la maison des mémoires de la ville de Sept-Fonds. C'est ce dimanche, ce sera au camp de Jude, autour de la nouvelle mise en valeur du mémorial. Ne bougez pas.
CFM Caylus, le mag.
De retour dans ce mag, on vous propose de faire le détour par le camp de Jude ce dimanche pour une nouvelle exposition et une visite organisée par La Mounière, la maison des mémoires de la ville de Sétrin. C'est Carole Staniski qui est la directrice de La Mounière et qui va nous faire la visite guidée ce dimanche. Bonjour Carole.
Bonjour.
L'exposition a été inaugurée la semaine dernière. La visite, là, c'est donc ce dimanche. Ce sera de 15h30 à 17h. C'est une visite pour un prix de 5 €. On va découvrir donc ce camp de Jude sous un nouveau regard, puisque l'exposition a lieu sur les baraquements.
Oui, absolument. L'exposition a lieu à la fois à l'extérieur du baraquement et essentiellement à l'intérieur du baraquement. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent le mémorial du camp de Jude à Sétrin, mais il y a depuis 2008 une baraque en bois qui a été reconstruite sur l'esplanade qui domine l'emplacement du camp. Et cette baraque, jusqu'à maintenant, il y avait peu d'informations, ce qui fait que le visiteur était un peu perdu, puisqu'il n'y avait pas de support qui expliquait qu'est-ce que c'était que cette baraque et le contexte aussi un petit peu historique de ce camp. Cette baraque, en définitive, elle a été reconstruite ici en 2018, mais par exemple à un quart des dimensions d'origine. Et ça, cette information-là, elle n'était pas livrée aux visiteurs. Maintenant, elle l'est, puisque sur les murs de cette baraque, vous trouverez désormais une douzaine de panneaux explicatifs sur lesquels il y a d'iconographie, des documents d'archives et du fond historique. Donc voilà le gros changement au mémorial du camp de Jude. Et on n'est pas peu fiers de cette exposition. C'est Margot Nicole, ma prédécesseuse, qui a orchestré tout ça d'une main de maître. Et on a inauguré cette exposition le 27 janvier dernier. Le 27 janvier, c'est une journée à la mémoire des génocides et à la prévention des crimes contre l'humanité. Et à l'occasion de ce 27 janvier, il y a eu deux cérémonies à Sétrin et il y a eu également l'inauguration de cette exposition avec un public assez nombreux parce qu'on était presque une soixantaine ce jour-là. Avec d'ailleurs, cerise sur le gâteau, le groupe Vent d'Est avec Sabrina Mochet au violon et David Clavel à la guitare et au chant. Il y avait une belle charge émotionnelle lors de cette inauguration et des cérémonies. C'était un beau moment.
La Mounière sur la thématique des déplacements de population et donc sur ce mémorial du camp de Jude, des expositions temporaires et cette nouvelle exposition permanente directement sur le mémorial, un dispositif numérique immersif, des reproductions et le tout autour de donc l'histoire de ce lieu de mémoire. Quelle est-elle cette histoire, peut-être pour en quelques mots?
Alors, en quelques mots, c'était important justement de revenir sur toutes les périodes différentes du camp, puisque ce camp a été ouvert en mars 1939 pour une population de républicains espagnols arrivés à Sétrin. Au début, ce camp était prévu pour 16 000 personnes. Il y avait 45 baraquements qui chacun pouvait interner 360 personnes. Donc c'était des conditions d'internement très très rudes. La baraque, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est qu'à un quart des dimensions. Donc faut imaginer que 90 personnes se trouvaient dans la baraque qui a été reconstituée aujourd'hui en 2008. Donc ça, c'est la première étape du camp. Mais ensuite, il y a eu différentes étapes quand la guerre a éclaté. Et essentiellement sous le gouvernement de Vichy, le camp a aussi été, si vous voulez, le premier maillon de la chaîne, la solution finale. Il y a 297 personnes juives qui ont été déportées depuis le camp de Sétrin, en transfert via Drancy et ensuite à Auschwitz. Et c'est cette période-là qu'on a souhaité aussi remettre en valeur sur les murs de cette baraque. Il y a, vous verrez, des photos en très grand format, presque à taille, à l'échelle, l'échelle 1, vous voyez, c'est-à-dire que voilà,
tout à fait.
À l'échelle réelle, ouais, merci. Donc les personnes qui sont représentées font quasiment la taille d'un être humain d'aujourd'hui. Donc ça, c'est assez immersif d'avoir ces images en très grand format à l'intérieur du baraquement. Et Donc voilà, cette partie sur les personnes juives, du coup, est mise en valeur et également dans ce baraquement, avec notamment quelque chose d'important qui est la liste des 297 personnes déportées. Il y a un panneau qui les nomme tous un à un avec leur âge et leur nom et prénom et nationalité.
Les Juifs, les Républicains espagnols aussi par la suite. D'ailleurs, il me semble que le camp de Jude est rentré dans le manuel scolaire espagnol.
Exact. C'est vrai que le 6 novembre dernier, le ministre de la République démocratique d'Espagne est venu reconnaître le mémorial du camp de Jude comme lieu de mémoire démocratique espagnole. Donc c'est vrai que cette reconnaissance par le gouvernement d'Espagne permettra que ce lieu de mémoire, cette Fontoise, soit dans les manuels scolaires espagnols et dans les programmes scolaires. Voilà, ce qui risque vraisemblablement de attirer de nouveaux visiteurs sur le mémorial. Ça a été anticipé tout cela puisqu'il y aura, d'ailleurs dès maintenant, des traductions possibles à la fois en espagnol et en anglais via un QR code. La petite nouveauté également de cette exposition, c'est aussi la mise en valeur d'une web application qui s'appelle 7 fonds, un camp des mémoires, qui était déjà là, mais maintenant il y a un panneau qui permet de mieux comprendre en fait cette application avec un QR code et avec le dessin en fait des personnages fictifs que l'on peut suivre pour mieux comprendre l'histoire de ce camp et les différents parcours. Mais il y a aussi une autre application maintenant qui se joint à celle-ci et qui, elle, n'est plus une fiction puisque c'est l'histoire réelle de la famille Finzan. Donc là, pareil, quand vous viendrez au mémorial, et je vous expliquerai tout ça le jour de cette visite, le 8 février, il suffit de flasher ce QR code et on aura accès au parcours de Jules et Joseph Finzan, ainsi que leurs parents, qui ont été déportés à Auschwitz. Ils étaient tous rassemblés dans le camp de Sept-Fonds, avant la déportation. Et les parents sont décédés à Auschwitz et Jules est rescapé. Et Jules, toute sa vie, Jules Finzan, a souhaité parler à un public scolaire, mais pas uniquement. Il a souhaité témoigner de cette horreur des camps. Et vous aurez accès via ce petit dispositif à certaines de vidéos que Jules Finzan a faites. Alors c'est assez dur, mais c'est essentiel de se plonger dans cette histoire-là. Mmh. Et ce QR code, l'originalité de la chose, c'est que c'est comme une frise, mais que l'on balaye de manière horizontale plutôt que verticale. On a plus l'habitude de scroller en version verticale. Et là, l'innovation est que c'est de manière verticale, point par point, on comprend les différentes étapes de Jules Finzan et de son frère Joseph, qui lui s'est engagé dans la résistance et s'est évadé du camp de Sept-Fonds. Voilà, ces histoires-là, tout ça, sont maintenant accessibles au plus grand nombre au mémorial du camp de Jude.
Dont vous proposez la visite ce dimanche de 15h30 à 17h. Il faut prévoir 5 euros lors de votre venue, venir directement sur place au camp de Jude. C'est une visite qui est organisée donc par la Mounière, la maison des mémoires de la ville de Sept-Fonds, autour du déplacement de population. Trois thématiques de la mémoire, donc le camp de Jude, mais aussi Petroni Cantecor, la première à avoir tissé des chapeaux de paille native de Sept-Fonds. On a aussi Dieudonné Coste, originaire aussi de Sept-Fonds, qui a été le premier à traverser l'Atlantique dans le sens Paris-New York, en avion bien sûr, sans escale. Et la Mounière, c'est aussi de la veille, et puis découvrir dans des nouveaux cartons, et ça un petit peu tous les jours, des nouvelles archives, des nouvelles données. Vous êtes là d'ailleurs en train de faire ce travail au moment où on est en train de parler, hein.
Oui, absolument. Nous avons recruté une personne qui est là en volontaire en administration territoriale. Donc c'est un contrat qui est aidé grâce au fonds de la préfecture. Et cette personne, Edith Grelotti, est là pendant un an pour justement mieux connaître les collections de la Mounière, la maison des mémoires de la ville de Sept-Fonds, sur les trois thématiques dont vous parliez à l'instant. Donc en effet, l'aviation, la chapellerie et le camp. Et en effet, là, tous les jours, ce sont des surprises dont on vous fera part assez régulièrement. On organisera également des visites dans un second temps pour explorer les nouveaux trésors découverts à la Mounière. Alors, c'est pas le propos de la visite de ce dimanche 8 février, où on restera précisément sur l'histoire du camp. Mais c'est une des visites qui verront le jour dans les mois qui viennent. Ouais, tout à fait. Il faut nous laisser le temps un petit peu de défricher encore tout ce qu'on a ici dans les cartons et
vous croulez sous les dossiers encore. Visite mensuelle de la Mounière avec la nouvelle mise en valeur du mémorial du camp de Jude. Visite ce dimanche à 15h30. Ça dure à peu près 1h30. C'est sur un tarif de 5 € que vous pourriez y assister. Alors idéalement, on réserve en vous contactant quand même à la Mounière, la maison des mémoires de la ville de Sept-Fonds. Et cette visite est organisée par vous-même, Carole Stanitsky. Merci beaucoup.
Tout à fait. Et ce sera directement, ce sera directement au camp. Ce sera pas à la Mounière. Le rendez-vous est directement au mémorial.
À dimanche alors. Merci Carole.
Merci. Au revoir.
Et merci à tous et à chacun de nous avoir suivis tout au long d'un mag qui sera comme d'habitude rediffusé à 18h et à 21h et comme de coutume à réécouter en podcast sur le site cfmradio.fr. Restez pour la suite. Ce sera depuis CFM Montauban avec Rémi et ce sera juste après les infos.